Place Info.
Bonsoir et bienvenue dans les informés de France Info. Nous sommes ensemble pour une heure et pour évoquer notamment ces trains qui n'arrivent toujours pas à l'heure. 19e jour de grève contre la réforme des retraites. La contestation va-t-elle gâcher les réveillons? Que peut encore faire le gouvernement? A-t-il décidé de laisser pourrir la situation alors qu'une nouvelle réunion de concertation est annoncée pour le 7 janvier seulement? Est-ce que la gauche peut espérer tirer les marrons politiques du feu de ce conflit? En tout cas, elle essaye. Et puis le chef de l'État dans tout ça, eh bien il revient d'un voyage officiel de 48 heures en Côte d'Ivoire. Voilà le sommaire à désinformer ce soir avec autour de la table Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24. Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint du Parisien aujourd'hui en France. Et Florian Silnicki, fondateur de l'agence lafrench.com. Allez, on va démarrer tout de suite avec cette grève contre la réforme des retraites. 19e jour, trafic toujours très perturbé dans les transports en commun parisiens et à la SNCF. Les départs en vacances pour les fêtes de Noël sont chaotiques et certains mènent des actions sporadiques comme en gare de Lyon à Paris ce matin. Action condamnée, on va y revenir, par plusieurs ministres du gouvernement. On écoute d'abord Fabien Dumas, secrétaire confédéral à Sudrail.
Je trouve ça bizarre de s'étonner d'une certaine forme de radicalisation du mouvement alors qu'on en est au 19e jour de grève et que le gouvernement est parti en vacances, visiblement. Hein. Il a renvoyé à des négociations ou à des pseudo-négociations au mois de janvier. Pendant ce temps-là, nous, on fait grève, on essaie de défendre nos droits et les usagers galèrent. Et le gouvernement dit, bah, c'est pas grave, on se reverra en janvier. Alors, nous, on trouve que ça complètement irresponsable.
Voilà, Fabien Dumas, secrétaire confédéral Sudrail. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est irresponsable de la part du gouvernement d'annoncer une prochaine réunion seulement? On l'a dit, l'info est tombée il y a pas très longtemps, le 7 janvier. Roselyne Fèvre.
Le 7 janvier, ça fera un mois qu'il y a des grèves, donc c'est long, beaucoup trop long. Alors pour les usagers, bien évidemment, et puis surtout pour les commerçants, les hôtels, les restaurants, on sait que ça va coûter quand même extrêmement cher. Et l'addition va commencer à peser. Donc je pense que certains sont de toute façon dans un affrontement à tout prix. Il faut de l'affrontement, il y a un durcissement clairement de la base qu'on voit aujourd'hui.
Ça se radicalise?
Oui, complètement, avec des noyaux durs qui se constituent et avec le sentiment tout de même que les centrales ne maîtrisent pas leur base et ceux qui, de toute façon, veulent en découdre.
Henri Vernet, les syndicats sont dépassés, c'est votre point de vue aussi ou...
Non, je dirais pas jusque-là, je pense pas qu'ils soient dépassés parce qu'on voit bien que malgré
par la
tout...
Base,
bah, là, c'est...
Par la
oui,
base,
mais alors, les bases, sont... on sait maintenant depuis 1995 que les bases, en effet, sont remuantes, qu'elles sont fortes. C'est d'ailleurs ce qui a coûté beaucoup à la CFDT à deux reprises, en 95, qu'en effet, vous le rappeliez, en 2003 également, où ils avaient au niveau de la centrale, le discours était, disons, plus apaisant, recherché des accords, et les bases n'étaient pas d'accord, et la CFDT en a souffert. Donc c'est aussi pour ça qu'elle-même, pourtant, syndicat réformiste, comme
payé,
on dit, un peu vite, parce qu'on n'est plus dans cette époque des réformistes d'un côté, révolutionnaires de l'autre, mais disons que c'est la terminologie qui reste employée. Donc, bref, UNSA et CFDT, en l'occurrence, est resté sur une base avec les durs, avec la CGT et FO, c'est vrai que c'est pour éviter surtout la coupure avec la base, le mécontentement de la base, pour autant que les centrales, enfin que les sommets des syndicats soient dépassés, pour l'instant non. Moi, j'ai pas l'impression, parce que la CGT et la FO, notamment, ont de toute façon, depuis le début, un discours qui n'a pas varié d'un iota et qui lui-même est très radical. Bah, c'est très simple, c'est non, cette réforme, mettez-la dans votre poche, retirez-la et remettez-la dans votre poche.
Les centrales ont bien compris qu'à un moment, vis-à-vis de l'opinion, de que les gens ne puissent pas prendre leur train pour rejoindre leur famille, il y a un moment, ça va être très compliqué
mais
à expliquer.
Mais tout le jeu, c'est d'en reporter la responsabilité sur le gouvernement, c'est
oui,
de faire passer
ça,
l'autre.
C'est comme la tartine, soit elle tombe du bon côté, soit du mauvais côté.
Justement, Florian Silnicki, ce genre d'action, comme on l'a pu voir ce matin en gare de Lyon, une action qui n'était pas déclarée en préfecture, un envahissement partiel et pendant quelques minutes de la gare, est-ce que ce type d'action, ça peut pas retourner un petit peu l'opinion, toujours favorable majoritairement, on le rappelle, à ce mouvement de réforme contre les retraites?
Alors c'est bien de rappeler que pour l'instant l'opinion elle soutient majoritairement ce mouvement, mais dans les sondages vous savez ce qui est important c'est pas tant le niveau que la dynamique pour les communicants et ce qu'on observe c'est que cette dynamique elle est en baisse. Les Français sont de plus en plus nombreux à ne plus soutenir le mouvement et ça c'est important à prendre en compte et je crois que le type d'action qui a été menée ce matin ça n'est pas de nature à resserrer le fossé qui peut exister avec une partie de l'opinion publique et ses militants syndicaux. En revanche je crois qu'il faudrait être naïf pour croire qu'il y avait la moindre chance que les appels d'Emmanuel Macron ou des leaders syndicaux à une trêve fonctionnent, pour une raison simple, c'est que je crois que ça aurait véritablement discrédité l'action qui est menée.
Pourquoi ?
parce que ça aurait été une véritable mise en scène que de dire on engage une action, puis on la retire, puis on revient ensuite. Il faut, et il y a en cela ici l'impact de la jurisprudence Gilets jaunes, que ces syndicats mettent en scène leur mobilisation constante pour que la pression ne retombe pas et que le gouvernement ne puisse pas, en quelque sorte, faire comme une prise de judo à ces syndicats et se servir de la force qui a été la leur jusque-là pour mieux les retourner en un coup de communication à la rentrée.
Pourtant, depuis Abidjan, le chef de l'État avait dit faire une trêve, ce n'est pas renoncer à son combat. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais c'est bien ce qu'il a dit, Roselyne Febvre.
Oui, c'est tout à fait ce qu'il a.
Qu'est-ce qu'il a voulu dire d'ailleurs par là? Il a voulu.
D'un autre côté, il a dit qu'il comprenait. Je ne sais plus ces termes exacts.
Il comprenait la grève, quelque part.
Ça, c'est qu'on lui a tellement dit qu'il était, arrogant, qu'aujourd'hui, il essaie de se mettre un peu au niveau des grévistes en disant, écoutez, je comprends que ce soit compliqué. Malgré tout, il faut savoir. Alors, c'était.
Il faut savoir arrêter une trêve.
Bon, c'est un jeu de mots, que tout le monde aura compris. Mais en tout cas, c'est vrai, ce qui m'a étonné, c'est le fait qu'ils comprennent en réalité ceux qui font grève et à la fois leur tenir tête.
C'est la bataille de l'opinion, c'est-à-dire qu'il est dans son rôle, faire une trêve.
Avouez que c'est paradoxal.
Il est celui
juge de paix.
Paradoxal, oui et non, parce que il est celui, encore une fois, il appelle à la trêve, il prend de la hauteur, il est président dans son rôle de président, et en plus il s'est relativement peu mouillé sur ce dossier-là. C'est vraiment le gouvernement, pour l'instant, à part l'épisode de sa propre tête sur lequel on reviendra certainement, mais pour l'instant, qui on voit à la manœuvre, c'est essentiellement Édouard Philippe. Le malheureux de le voir maintenant qu'il était sorti son successeur. Et quand je dis le malheureux, c'est avec une certaine ironie, parce qu'il est le seul responsable de ce qui lui est arrivé, de sa mise sur la touche. Mais et les ministres directement concernés. Donc, je veux dire qu'il bénéficie un petit peu, le président, du fait de ne s'être pas trop impliqué dans le dossier pour faire cet appel à la trêve. Et donc, encore une fois, ça veut dire, vous voyez, vous, opinion publique, vous, Français qui galérez, eh bien, moi, j'appelle à cette trêve. Si, malheureusement, les autres ne sont pas assez responsables, entre guillemets, je parle là, dans la pensée qu'ils pourraient avoir, pour l'appliquer, eh bien, j'aurais fait, moi, ce qui est possible.
Ne bougez pas, les informés continuent, on poursuit ce débat dans un instant, mais d'abord l'info, il est 20h10, on retrouve Lauriane Delanoë.
Le gouvernement recevra les organisations syndicales le mardi de la rentrée, le 7 janvier, pour reprendre les négociations sur la réforme des retraites. Cette concertation se poursuivra tout le mois de janvier, annoncent ce soir les services du Premier ministre. D'ici là, la grève se poursuit 20e jour demain. La SNCF maintient en circulation 2 TGV et Ouigo sur 5, 1 intercité et 1 transilien sur 5, 4 TER sur 10. Dans Paris, 6 lignes de métro seront demain totalement fermées. Rendez-vous sur franceinfo.fr pour les prévisions complètes. 5000 foyers sans électricité ce soir, principalement en Nouvelle-Aquitaine, d'après Enedis, les agents mobilisés après le passage de la tempête Fabien. En Corse, l'aéroport d'Ajaccio inondé est toujours fermé. Des heurts entre supporters de football et forces de l'ordre samedi soir à Nîmes. Le procureur ouvre une enquête pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un supporter porte plainte, lui, contre les policiers. L'un des hommes les plus puissants d'Algérie est mort ce matin, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, qui avait 79 ans. 3 jours de deuil national décrété par le nouveau président, Abdelmadjid Tebboune. Le patron de Boeing, Denis Muilenberg, démissionne. Son conseil d'administration veut une nouvelle direction pour restaurer la confiance. L'avionneur américain en pleine crise depuis le crash de 2 Boeing 737 MAX en Éthiopie et en Indonésie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Julien Lenglet.
La suite des informés de France Info avec autour de la table Roselyne Febvre, chef du service politique de France 24, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint du Parisien aujourd'hui en France, et Florian Silnicki, fondateur de l'agence LaFrench.com. Alors cette grève contre la réforme des retraites, 19e jour, aujourd'hui la difficulté pour le gouvernement de trouver une sortie de crise. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, a d'ailleurs tenté d'alerter sur les conséquences économiques de cette grève sans fin, on l'écoute.
Sur Paris, des chiffres inquiétant, des pertes de réservation de 50%, des pertes de chiffre d'affaires de 30% pour certains hôtels. Et c'est la perspective de ne pas pouvoir se déplacer qui conduit notamment les gens de province à pas venir jusqu'à Paris et à reconfigurer leurs vacances de Noël. Mmh. Et puis on voit aussi les salles de spectacle qui souffrent. Non seulement il y a des gens qui ne se présentent pas, alors ça c'est du chiffre d'affaires qui n'est pas perdu, simplement les gens du coup ne réservent pas. Et ça c'est beaucoup plus inquiétant également.
Voilà, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie chez nos confrères de RTL. Le gouvernement joue définitivement l'opinion et ne prend pas d'initiative, on dirait, puisqu'on l'a entendu encore. Prochaine réunion le 7 janvier, ça sert à quoi de faire ça?
Déjà, de ne pas lâcher, hein, ce qu'on avait déjà vu vendredi, puisqu'on, après la bilatérale, on s'est dit, dans le fond, Édouard Philippe, en sortant, il va amender des choses. Et c'est vrai que ça a été une surprise de voir que, dans le fond, il restait ferme sur les réformes budgétaires, que, dans le fond, il voulait faire d'une pierre trois coups son régime spécial, son système universel et ses réformes budgétaires, puisque tant qu'à faire, autant y aller. Alors là-dessus, il a peut-être justement fait bouger un peu Emmanuel Macron, dont on disait que lui était beaucoup plus attaché à sa réforme systémique que sa réforme budgétaire. Mais en tout cas, c'est là peut-être le rôle du Premier ministre qui n'est pas un collaborateur, comme dirait Nicolas Sarkozy, mais qui a plutôt son mot à dire. Et un Premier ministre qui veut rester une sorte pas d'inconscient juppéiste, mais de posture juppéiste. Je ne lâcherai pas. Et on a eu le sentiment la semaine dernière qu'il avait un peu décroché la CFDT et l'UNSA. Un petit peu en voulant, en se disant on va isoler la CGT et FO,
les plus radicaux,
mais moi je maintiens, contrairement à ce que dit mon ami parisien, c'est que je pense que la base est en train
on est quand même un peu surpris de voir qu'il y a aucune initiative de la part du gouvernement hormis cette réunion le 7 janvier. Ça veut dire que finalement on laisse les Français se débrouiller avec cette grève. C'est un peu ça, Florian Sénicky.
En tout cas, si c'est stratégisé, si c'est pensé, si c'est voulu, bien c'est une mauvaise idée.
Pourquoi ?
Ils auraient dû tirer les leçons de l'épisode du mois où ils ont laissé en jachère les gilets jaunes dans les rues. Ils ont vu à quel point le fossé ne peut que grandir avec le discours du politique. Ils n'ont pas ici intérêt à laisser penser aux Français que leur trêve de vacances à eux, au gouvernement, aux membres du gouvernement, malgré les consignes de low profil donné aux membres du gouvernement, c'est plus important que la gestion de ce conflit social. Et je crois qu'il risque de se mettre à dos une partie des Français qui vont finir par comprendre que le gouvernement, il a incontestablement une responsabilité, même si je comprends que c'est un art en communication politique que de systématiquement laisser penser que les autres sont responsables de ses propres actes.
C'est ici, ce que font les syndicats aussi. Hein.
Oui, mais vous savez que l'opinion aujourd'hui, elle devient un peu paranoïaque à l'égard de la parole politique, et à chaque fois qu'il y a un message, et ça a été vu, et on y viendra sûrement sur l'annonce des retraites, chaque fois qu'il y a un message émis par les politiques, ou une annonce politique, on cherche à comprendre ce qu'il y a derrière. On traque les arrière-pensées ou les messages dissimulés. Bien, il y en est de même ici, et le gouvernement n'a pas intérêt à une nouvelle fois en être la victime.
Édouard Philippe avait dit il n'y aura ni gagnant ni perdant. On a quand même l'impression que le Premier ministre n'a pas très envie de perdre, Henri Vernet.
Mais non, mais attendez, c'est pas que le Premier, c'est le Président. C'est-à-dire qu'il est venu avec, alors je sais bien qu'à chaque fois on glose en disant non, mais il a été élu parce que c'était Le Pen en face de lui, etc. Peut-être, mais enfin, à la base, il a quand même été élu. Et il avait un pourcentage de voix au premier tour qui était relativement important par rapport aux désastres électoraux qu'on a vu ces dernières années, à part la parenthèse de 2007.
Il y a des législatives
mais,
aussi.
Mais en plus, exactement. Donc, il est élu sur un programme qui dit on va réformer, et surtout, c'est son mantra, sa marque de fabrique, de faire des réformes dans ce pays. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, je ne dis pas que c'est la bonne chose ou la mauvaise, mais toujours est-il qu'il veut réformer. S'il canne, s'il lâche l'affaire sur une réforme aussi importante que celle-là, c'est terminé. Je veux dire, le quinquennat, ça devient le bon vieux quinquennat à la Chirac, où surtout, on en fait le moins possible, on revient à la 4e République du pire cueil. Donc, non, c'est ça qui est quand même en jeu. D'autre part, là où je suis pas... Alors, c'est vrai aussi qu'il faut éviter l'autre écueil. L'écueil, disons, vous savez, à la François Fillon qui se vante d'avoir mis 1 million de personnes dans la rue, voire plus d'ailleurs, 2,5 millions en 2010. Une vraie... Vous avez cet impensé, en quelque sorte, qui revient à dire une bonne réforme, c'est une réforme qu'on fait contre les gens. On met du monde dans la rue, une réforme impopulaire. Et à la fin, elle passe. C'est cette idée. Voilà, les gros bras du gouvernement qui le font. Et ça, on voit bien que ça marche pas, parce qu'on est aussi le pays qui, quand il fait une réforme, la défait assez vite quelques années après. Bon, ça, c'est une chose. Alors, je suis pas sûr qu'il joue à ça. S'il voulait y jouer, ce serait en effet une erreur. L'épisode des Gilets jaunes l'a bien montré. Maintenant, la troisième chose, c'est que moi, je ne serais pas d'accord sur quand on dit que rien n'a bougé. Non, c'est pas vrai. On voit bien que l'âge pivot, vous verrez, enfin, on peut prendre les paris ici, mais je pense pas que ça tiendra très longtemps en janvier. Ça fera partie des éléments qui seront rognés assez vite et sur lesquels il y aura compromis. Enfin, sans, voilà. Je pense qu'il y en a d'autres. Regardez, sur les régimes spéciaux, on voit déjà.
Ils ont été surpris. Pourquoi il n'y en a pas eu là de compromis?
Mais pas parce qu'il faut attendre que chacun se positionne. Parce que aussi, c'est vrai que c'était l'une des choses qui ont été avancées à dessein.
Non, mais compromis, on verra bien. Négociations à la française, ça fait 2 ans et demi quand même qu'ils discutent. Et là, maintenant, on est en train de discuter de l'âge pivot.
C'est bien sûr. Il n'y a pas que ça. Il y a les concessions financières. En fait, vous disiez tout à l'heure que le principe, c'est que quand l'un parle, on cherche à comprendre de quelle manière il veut reporter la faute, la responsabilité sur l'autre. C'est vrai qu'il y a ça. Mais il y a quand même aussi cette idée que, malgré tout, cette réforme, c'est surtout, elle repose sur des engagements. Et aujourd'hui, la parole politique est tellement dévoyée, elle est tellement dévalorisée qu'on ne vous croit pas dans les engagements. Les
profs ne croient pas
c'est ça qui est premier dans
l'engagement politique, il était sur la réforme systémique. Il n'était pas sur l'âge pivot, puisque... Non,
je ne parle pas que de ça, je parle en général, y compris notamment les enseignants. Les enseignants ne veulent pas croire qu'on va garantir leur retraite. Parce qu'ils
mais moi, je
pas
crois qu'il y a un
politique.
Calcul politique derrière qui est clair, c'est que donc Emmanuel Macron a été élu sur le en même temps. Donc le en même temps un peu social-démocrate, c'est-à-dire que une partie de son électorat aime qu'on flatte, qu'on n'envoie pas bouler la CFDT, qu'il y ait un dialogue social. Et puis l'autre, la droite, hein, c'est le socle aussi des 25% que lui a apporté aussi la droite. Donc ancrée à droite, et ne pas lâcher sur l'âge pivot, c'est important politiquement pour lui, pour 2022. Donc c'est en même temps, il est facile pour être élu, mais il est compliqué quand il faut faire de la politique.
Bon, on va voir à qui profite dans un instant, ou pas politiquement en tout cas, cette grève contre la réforme des retraites. Les Insoumis notamment sont en première ligne, on voit ça dans un instant, juste après le rappel de l'info, les 20h20, on retrouve Lauriane Delanoë.
Matignon dévoile son calendrier des négociations sur la réforme des retraites. Les syndicats reçus le mardi 7 janvier par plusieurs membres du gouvernement, puis d'autres réunions prévues les jours qui suivent. La grève contre cette réforme se poursuit. Le trafic très perturbé demain encore à la SNCF et à la RATP dans Paris. Vous trouverez les prévisions sur l'application France Info et dans les raffineries de France. Le mouvement se durcit. Une deuxième totalement mise à l'arrêt aujourd'hui. La CGT l'affirme sur France Info. Certaines stations-services sont déjà à sec. Ça va s'accélérer entre Noël et le jour de l'an, prévient un représentant du syndicat chez Total. Météo France maintient 4 départements en vigilance orange. Ce soir, les Deux-Savoie par crainte d'avalanche, l'Ille-et-Vilaine et la Charente-Maritime pour le risque d'inondation. Après le passage de la tempête Fabien ces derniers jours, 5000 foyers restent sans électricité ce soir. Une automobiliste placée en garde à vue dans l'Ain, cette femme de 26 ans soupçonnée d'avoir percuté 7 piétons hier à Franchelin. 4 sont grièvement blessés, une personne parmi elles en urgence absolue. Cette jeune femme qui s'est rendue d'elle-même hier soir à la gendarmerie. La fiancée de Jamal Khashoggi dénonce un verdict inacceptable. 5 Saoudiens condamnés à mort pour le meurtre du journaliste l'an dernier au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Des proches du prince Mohamed Ben Salman mis hors de cause, faute de preuves d'après le procureur saoudien.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Julien Lenglet.
Avec ce soir Roselyne Fèvre, Henri Vernet, Florian Silnicki, on continue d'évoquer, je sais que vous êtes pressé d'évoquer l'annonce d'Emmanuel Macron sur son renoncement à la retraite, mais on va y revenir. On va d'abord se demander un petit peu si une formation politique peut tirer les marrons du feu de cette grève contre la réforme des retraites. On voit très bien depuis le début du mouvement la très forte présence de la France insoumise, de son leader Jean-Luc Mélenchon. Éric Coquerel, député insoumis de Seine-Saint-Denis, était ce matin l'invité de France Info à 8h30. Il dit tout simplement que c'est de la responsabilité du gouvernement de mettre un terme à cette grève.
Que ne se l'applique-t-il pas lui-même? Parce qu'il a un moyen de faire une trêve. Il retire le projet, contesté par une majorité de Français, qui soutiennent toujours très majoritairement le mouvement de grève. Et puis après, on met tout à plat, il négocie avec les syndicats. Mais c'est pas ce qu'il fait.
Éric Coquerel.
Donc il décide de mettre en tension le pays. Il décide de mettre en tension le pays. Plusieurs semaines supplémentaires. Il en est le seul responsable.
Éric Coquerel, député insoumis de Seine-Saint-Denis. Florian Siniki, je vous voyais hocher de la tête pendant l'extrait qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui ne va pas, hein?
Bah parce que c'est de la rhétorique, mais c'est de la rhétorique grotesque. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ces gens qui se plaignent en permanence que leur parole politique elle a plus d'impact sur l'opinion, eh bien, ils en sont quand même eux-mêmes responsables. Quand on dit ce genre de truc qui n'a aucun intérêt, si ce n'est faire plaisir à des militants hystérisés, je vois pas exactement dans quel scénario crédible le président de la République va intervenir pour annoncer que le projet porté par le Premier ministre, il est temporairement suspendu pendant la période des fêtes. Enfin, je crois que ça n'a aucun sens, que ça n'est pas crédible, et que c'est donc dommage que certains de nos responsables politiques portent ce genre d'argumentation sans fondement.
Et pour vous, ça participe à la décrédibilisation de la parole politique, justement ? Ce genre de déclaration ?
Très clairement, sans ambiguïté.
Pourtant, la France Insoumise a proposé une contre-réforme des retraites. Henri Werner, Roselyne Fèvre ? Pas crédible, non, cette contre-réforme ?
Non, mais
départ à 60 ans, c'est...
Oui, c'est ce que propose aussi Marine Le Pen. Donc départ à 60 ans, oui, ça veut dire quoi ? On est passé de 60 à 62 et on reviendrait à 60 ans.
En ayant cotisé 40 ans, donc chacun de nous signe si un scénario comme celui-là, il était possible,
grand n'importe
probable
quoi.
Et réalisable.
C'est du grand n'importe quoi. La France Insoumise espère une fois de plus capter le butin, ce qu'elle n'a pas réussi à faire lors des Gilets jaunes. Quant à Marine Le Pen, elle gagne, elle espère gagner sur tous les tableaux. Elle soutient les grévistes, elle va pas aux manifs,
sans
mais elle les soutient quand même. Elle vient faire de temps en temps un petit plateau à la télé pour dire que tout ça est totalement injuste. Et elle propose effectivement le retour à 60 ans. Quant au PS, ils sont aux abonnés absents. Et la droite, elle dit bah, 64 ans, c'est pas assez, faut aller plus loin. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a le choix, chacun choisira le camp dans lequel...
Peut-être un point d'ailleurs, c'est vrai que c'est aussi une chance d'Emmanuel Macron à ce stade. Il a toujours eu un peu une bonne étoile, Emmanuel Macron, depuis sa conquête à l'Élysée.
Ici, c'est quoi, la faiblesse des
oppositions ? Il a une opposition politique extrêmement faible et médiocre dans les contre-propositions ou dans la création des contre-gouvernements qu'ils avaient énoncés à ses propositions.
En vrai, moi, je ferais quand même vraiment un bémol sur la droite. C'est vrai que, bon...
Très discrète, la droite. Hein.
Alors, non. Pas si discrète que ça, parce que...
Non, mais
peut-être que nous, médias, regardons, balayons devant notre porte. Parce que c'est vrai aussi que est-ce qu'on va leur demander à chacun d'eux, mais au fait, quelles sont à vous vos propositions, quelles sont votre contre-réformes, en l'occurrence. Alors c'est vrai, vous avez évoqué rapidement LFI, les Insoumis et le RN. Le RN, en effet, cette promesse tous les deux, oui, de la retraite à 60 ans. Ce qui veut dire, le RN, c'est simple, hein, c'est leur vieille recette de préférence nationale pour l'emploi, récupérer tout l'argent qu'on donne à l'Europe, même si cela repose largement sur des mythes, hein. C'est un petit peu le côté finalement Thatcher, My Money Back, etc. Tout ça marche pas, c'est pas si simple, et c'est comme ça qu'on financerait la retraite à 60 ans, l'étatisme à outrance, etc. Bon, en effet, rien ne dit que ça marcherait ni pour les uns ni pour les autres, même si leurs recettes sont un peu différentes.
Mais la droite,
mais simplement, la droite, voilà. Mais non, la droite, figurez-vous qu'il y a une quinzaine de jours, elle a présenté des pistes de réforme, y compris d'ailleurs, vous savez, maintenant que la droite s'est fait piquer l'étiquette libérale, que d'ailleurs elle méritait pas plus que ça, parce que la droite libérale française, plutôt, ça fait un peu sourire. Mis à part peut-être comme Madeleine et Fillon. Et même Fillon sur certains aspects, tout en restant assez étatiste quand même. Mais bref, donc, ils ont leur projet. Alors eux, ils jouent sur ce qu'on appelle donc le systémique, c'est-à-dire tout simplement le report de l'âge de la retraite. C'était dans le programme de Fillon, la bagarre à droite. Et là, aujourd'hui, dans le programme, ils ne savent pas très bien s'ils parleraient d'un départ à 63 ans ou 64 ans, mais il y a ça. Il y a donc, ils ont, maintenant qu'ils se sont piquer le libéral, ils prennent un peu un côté, vous savez, le côté gaullisme social, et donc ils veulent réformer la pénibilité, donner des avantages à
Edouard Philippe, quand même.
Mais bien sûr. Et donc, oui, mais il y a, mais Edouard Philippe ne met pas de côté totalement la pénibilité. Je vous dis que dans les concessions, dans ce qui pourra faire compromis d'ici quelques semaines, il y aura ces aspects-là. Bref, la droite, elle présente des trucs.
Déjà, hein.
Mais surtout, pourquoi est-ce qu'elle pourrait être gagnante ? Parce que donc, la droite, en quelque sorte, s'est fait dépouiller par Macron, mais son discours, imaginez que cette réforme, elle ne passe pas, qu'on arrête tout, etc., qu'on tire le rideau sur le quinquennat Macron. Eh bien, qu'est-ce qui se passera ? Ceux à droite qui aujourd'hui sont en embuscade, qui sont un petit peu, qui apparaissent comme des gestionnaires, c'est-à-dire Xavier Bertrand, bon, ils sont plus LR, Valérie Pécresse, leur région marche pas si mal.
Ouais. Donc la droite parie sur l'échec de Macron.
Exactement.
Florian Siniki.
Il y a un point intéressant, je trouve, dans la gestion de l'opinion. L'une des séquences qui a durablement marqué l'opinion publique, c'est cette intervention de François Fillon, où il surfe en fait sur la défiance très grande qui existe à l'égard de la parole politique et où il dit la réforme à points, en fait, c'est un objectif, c'est de baisser le point constamment pour mieux vous faire passer la pilule. Et je crois que en surfant ainsi sur la défiance, François Fillon, qui existait dans l'opinion à l'égard de la parole politique, François Fillon, il a en quelque sorte eu sa revanche sur Emmanuel Macron en saccageant au moins en partie la confiance, si elle existait, qui lui reposait sur cette réforme.
Bon, très bien. Florian Silnicki, Roselyne Fèvre, Henri Vernet, vous restez avec nous. On va parler, ne vous inquiétez pas, on a encore une deuxième partie en entier pour parler d'Emmanuel Macron. Justement, quel rôle peut-il jouer dans ce conflit contre la réforme des retraites? On va parler de son annonce, puisqu'il renonce à la sienne de retraite. Tout cela dans la deuxième partie des Informés après 20h30. À tout de suite.
Politique,
enquête,
sport,
invité,
culture,
interview,
économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, et tout est plus clair. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Le temps avec Jean-Pierre Hameau à Météo France.
Demain, nous allons retrouver de faibles pluies sous un ciel couvert entre la Gironde, le sud du Massif central, jusque vers les Alpes du Nord. Et attention, avec une limite pluie-neige remontant vers 2200 mètres d'altitude, le risque d'avalanche restera très important sur tous les massifs des Alpes du Nord. À noter de fortes rafales sur les crêtes des massifs vosgiens et alpins, mais aussi du côté des Cévennes. Dans les autres régions, prévoyez un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Quelques averses se produiront encore au nord de la Seine, jusque vers les frontières du Nord-Est. Prévoyez un très bon ensoleillement vers la Côte d'Azur et l'est de la Corse. Le vent va souffler entre 70 et 90 km/h le long des côtes varoises et près des Caps Corses. Pour votre journée de Noël, la nébulosité sera importante sur la moitié nord du pays, mais aussi vers la Gironde et près de la Garonne. Partout ailleurs, le soleil sera bien au rendez-vous. Le Mistral va souffler jusqu'à 60 km par heure.
Merci Jean-Pierre Hameau. France Info, il est 20h30. L'info avec Emmanuel Langlois.
Les négociations sur la réforme des retraites, elles reprendront le 7 janvier. Le gouvernement recevra ce jour-là les partenaires sociaux pour discuter pénibilité et gestion de fin de carrière. La concertation se poursuivra tout au long du mois de janvier, précise Matignon. Le Premier ministre Édouard Philippe lui proposera une méthode de travail concernant l'équilibre financier du système. En attendant, sur le terrain, pas de répit en vue cette semaine pour les usagers du rail. Les grévistes mobilisés contre la réforme veulent maintenir la pression pendant les fêtes. À la SNCF toutefois, le taux de grève est tombé à 9,2% ce matin. Moins de la moitié des conducteurs de train ont cessé le travail. En attendant, les perturbations continuent, toujours importantes sur les réseaux SNCF et RATP. On connaît depuis ce soir les prévisions de circulation pour la journée de demain, mardi 24 décembre. Les voyageurs vont encore devoir faire preuve de patience pour espérer rejoindre leur réveillon de Rétizon.
La situation se dégrade sur le rail, surtout sur les TGV et les Ouigo. Seulement 2 trains sur 5 demain. Très peu d'intercités, 1 sur 5 et 4 TER sur 10. En région parisienne, comptez 1 Transilien sur 5. Prévision identique à aujourd'hui. À ceci près que sur 7 lignes de Transilien, les liaisons vont progressivement s'arrêter à partir de 18h ce mardi, pour ne reprendre que mercredi après-midi. Sur le réseau RATP cette fois, on prend les mêmes et on recommence. Demain, seules les lignes 1, 14 et l'Orlival fonctionnent normalement toute la journée. La moitié des RER A et le tiers des RER B roulent en période de pointe. Attention, le soir, cette période de pointe est avancée pour s'achever à 18h30. À noter que 6 lignes de métro restent totalement coupées. Et pour le lendemain, mercredi 25, la RATP annonce déjà que le trafic sera encore plus réduit.
Audrey Tison, et depuis le début de cette grève contre la réforme des retraites le 5 décembre dernier, l'Opéra de Paris affirme avoir perdu près de 8 millions d'euros de recettes de billetterie. 45 spectacles ont été annulés, comme le Prince Igor à Bastille et le ballet Le Parc à Garnier encore ce soir. Une automobiliste de 26 ans en garde à vue dans l'Ain hier en fin d'après-midi. Elle avait pris la fuite après avoir percuté 7 piétons à Franchelin. Elle s'est rendue hier soir. Peu de temps auparavant, c'est sa passagère qui s'était présentée aux enquêteurs. 4 des 7 victimes, tous membres d'une même famille, sont gravement blessés, dont une en état d'urgence absolue. À l'étranger, le patron de Boeing démissionne après des mois de vives critiques pour sa gestion de la crise du 737 MAX, la pire de l'histoire de l'avionneur américain. Le groupe estimait qu'un changement à la direction était indispensable pour restaurer la confiance. Après deux crashs en moins de 5 mois, toute la flotte des 737 MAX est clouée au sol depuis mars. La production sera, elle, arrêtée à partir du mois prochain. 5 Saoudiens condamnés à mort par un tribunal de Riyad pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. C'était en octobre 2018 à Istanbul, dans l'enceinte même du consulat d'Arabie Saoudite. Deux des principaux suspects, un conseiller royal et un chef du renseignement, ont eux été disculpés. La Turquie dénonce ce soir un verdict scandaleux. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, deuxième partie.
20h, 21h, France Info, les informés, Julien Lenglet.
La deuxième partie des informés avec ce soir autour de la table Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint du Parisien aujourd'hui en France, et Florian Silnicki, fondateur de l'agence lafrench.com. On évoque bien sûr cette grève contre la réforme des retraites, 19e jour, et le chef de l'État dans tout ça cherche-t-il aussi, lui, la sortie de la crise? Il a, semble-t-il, fait quelques tentatives, lancé donc cet appel à la trêve. Ça, c'était à l'occasion de son voyage officiel en Côte d'Ivoire, voyage de 48 heures. Et puis c'est lors de ce voyage, mais non pas pendant ce voyage, qu'il a fait cette interview dans Le Parisien, où il fait cette annonce, où il renonce à sa retraite présidentielle. Est-ce qu'il a bien fait ou est-ce que c'était maladroit? D'abord, Henri Vernet, un mot sur le contexte de cette déclaration parue ce week-end dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Alors c'est pas une déclaration, c'est là, je pense, parce qu'en effet, j'entends, y compris vos confrères radio et pas mal de confrères de manière générale. Bah, évidemment, dès qu'un président s'exprime, c'est un plan com, forcément. Dès qu'un politique parle, il n'y a que de la com. Qu'il y ait une part de com dans cette posture du président, bien évidemment. Qu'il y ait une part de démagogie aussi. Mais, en effet, vous avez raison, le contexte, c'est quoi? C'est qu'il se trouve que, en début de semaine dernière, on avait préparé pour Le Parisien un dossier sur, mais les retraites des politiques, comment ça se passe? Donc, des politiques en général. Ceux de l'exécutif, les ministres, etc. Et les élus, les parlementaires, bon. Donc c'était un dossier assez large. Dans le cadre de ce dossier, on se dit, mais au fait, pour le président, comment ça marche? Quelle est sa retraite? Est-ce qu'il y a une caisse spéciale président, en quelque sorte? Bref, et est-ce que justement, puisqu'il réforme celle des Français, va-t-il se réformer lui-même, en quelque sorte? Donc, on lui pose la question, on l'envoie. On envoie cette question à l'Élysée, donc au collaborateur direct du président, en lui demandant, votre retraite, c'est comment ça va marcher? Il se trouve que la réponse, on l'a eue 5 jours après. Pendant 5 jours, puisqu'on lance le dossier le lundi, on a eu la réponse, pour tout vous dire, j'étais au journal, on a eu la réponse samedi après-midi de l'Élysée, voilà. Il y a en effet une caisse, enfin non pas une caisse spéciale, il y a un régime spécial qui remonte à une loi de 1955, 4e République. Ouais. De mémoire, livresque, c'était Coty à l'époque, donc c'est même pas la 5e République. Il y a ce régime spécial pour les présidents. Il décide d'y renoncer. Mais il répond à une question. Il ne le sait même pas.
Environ 6 000 euros par mois.
Voilà. Oui, oui. Hein. Et dès qu'on sort. Ce qui est, voilà. Regardez, Giscard, il est quitté en 81. Depuis 81, il touche 6 000 euros par mois. Enfin, c'est une modeste partie de ses revenus. Mais voilà, en tout cas, il y a ça tous les mois qui tombe depuis donc assez longtemps. Bref, il répond, l'Élysée répond à une question. Ce n'est pas une annonce de Macron.
Oui, et encore moins depuis Abidjan. Ça se transforme en annonce. Le contexte n'est pas fait par hasard. Non, mais Florian Sénic est justement là-dessus. C'est un coup de com'. Bienvenue ou malvenu, une posture ou une imposture?
En tout cas, ça se retourne contre le président comme un boomerang. Moi, je suis toujours séduit par le fait que, quoi qu'il arrive, et je parle pas spécifiquement de ce point-là, mais les hommes politiques, ils cherchent toujours à faire des coups médiatiques, ils cherchent à miser sur l'effet séduction. À chaque fois, ils se prennent en pleine figure un boomerang. Ici, que ce soit une interview ou pas une interview, même si ça change des choses, et
oui,
ça change
la façon dont on
doit les analyser.
Ah. Oui, mais 5 jours exactement. Après, on y réfléchit.
Mais justement, peut-être un peu mal, d'ailleurs.
Oui. Ici, si vous voulez, ça agit dans l'opinion comme un pot de yaourt qui vous dirait, vous pouvez le manger, vous ne grossissez pas, il n'y a pas de sucre, et puis il y a une petite étoile, au fond, il y a de l'aspartame. Donc tout le monde a annoncé, le président de la République renonce à sa retraite. Finalement, on comprend, en lisant le papier, qu'il ne renonce pas à sa retraite, qu'il va s'appliquer le régime.
Je comprenais le titre. On dit bien qu'il renonce à une retraite de président. Il se trouve qu'en France, dans notre monarchie républicaine, nous avons des privilèges de tous les côtés. Mais ça, excusez-moi, c'est dû à vous et moi qui sommes électeurs, et si on voulait changer ce système, libre à nous de le faire, il y a des urnes assez fréquemment. Bref, il renonce à une retraite de président, qui en effet est un régime totalement exorbitant. Je vais vous dire un truc, nous on était sûrs aux Parisiens, pourquoi est-ce qu'on voulait le faire assez vite ce sujet? Parce qu'on était sûrs que les premiers qui poserait la question à l'Élysée, ils auraient cette réponse-là. Quel que soit le président, dans un contexte pareil,
il aurait pas pu dire ça, bien évidemment.
Mais oui, parce que, en effet, alors, on expliquera ça par de la démagogie. Moi, je dirais tout simplement du bon sens. Vous êtes au règne du pays.
Oui, mais alors, pourquoi c'est perçu de cette manière? Alors, pourquoi c'est perçu comme de l'arrogance, de la suffisance?
Parce que le cas échéant, il y aura
dit Jean-Luc Mélenchon, par exemple.
Quoi qu'il fasse, il sera jugé et suspecté de démagogie. Ah, bien, il renonce à sa retraite. Ça veut dire qu'il en a pas besoin. Donc, ça veut dire qu'il est riche. Bah oui, il était chez Rothschild. Et puis, troisièmement, c'est pas parce que il va changer son régime que ça va faire passer la pilule de la réforme des retraites. Donc, voyez, les uns et les autres trouvent une bonne raison de critiquer. En fait, tout bonnement, il s'applique son régime d'universalité,
ouais. qu'il propose du bon sens
à tout le monde. Alors, j'ai peut-être un petit bémol, c'est peut-être de dire dans le fond, si je fais moi ce sacrifice, si je m'assois sur mes 6 000 euros bruts par mois, c'est qu'aussi je demande aussi un sacrifice. Ça peut être compris comme ça dans la tête des gens. Non, mais voyez,
ça peut être enfoncé, ça peut être une arrière-pensée, même plus qu'une arrière-pensée.
Vous faites un sacrifice, vous devez en faire. Mais en fait, là, et la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que là où il fait aussi d'une pierre deux coups, si je puis dire, c'est que les Français détestent leur classe politique. Mais vraiment, ils la détestent, et particulièrement Emmanuel Macron. On le voit bien depuis 2 ans maintenant. Donc c'est sa façon aussi peut-être de redécrédibiliser la classe politique et leur statut.
Florian Sinicky.
C'est vrai que c'est important ce qui vient d'être dit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en tout cas, c'est mon avis personnel. À chaque fois qu'il y a eu une crise, Emmanuel Macron, il a aimé jouer le sage sacrificiel. Il a aimé pouvoir intervenir et dire qu'il était capable de résoudre la situation. On l'a vu pendant les Gilets jaunes, lorsqu'il a lancé ce vaste débat national et cette série de réunions locales. À chaque fois, il a voulu, lui, jouer un rôle. Et ici, c'est cela. Il s'est tenu à l'écart jusque-là. Il a tenté ici de jouer le sage en prenant du recul et en appelant à cette trêve, tout en montrant qu'il était exemplaire et qu'il était capable d'incarner l'exemplarité auquel il appelle les Français du point de vue de ce sacrifice.
Parce que c'est le premier acte du débarquement de Macron dans le dossier, parce que
complètement.
Il est clair que le 31 décembre, lors des vœux traditionnels, ce serait quand même
c'est tard le 31 décembre.
On vient de parler pendant un quart d'heure, on a parlé de la longue trêve, de la longue pause, etc. On a parlé des reprises pas avant le 7 janvier. Non, on oublie juste qu'entre les deux, il y aura la séquence extrêmement importante politiquement, symboliquement, encore une fois, du monarque là, qui va guérir les écrouelles le 31 décembre. On sait bien que ça ne marche plus depuis des siècles. Mais encore
ça plus,
celui qui a remis la tradition, c'était De Gaulle, dès son arrivée à la 5e. Bref, c'est là qu'il y aura sans doute un moment important, disons peut-être le deuxième acte, après celui un peu loupé de l'annonce de son sacrifice tout à fait relatif de sa retraite, parce que ne doutons pas que ces revenus seront tels que ce ne sera pas énorme comme sacrifice. Mais voilà, le deuxième acte, il sera doute là. Et je pense qu'il vise à quelque chose d'assez important.
C'est une balise, Bon, eh bien, on va voir ça dans un instant. Les informés, ça continue. Mais d'abord, le rappel de l'info, 20h40. On n'est pas en avance. On retrouve Lauriane Delanoë.
Des réunions sur la pénibilité, les fins de carrière, le niveau des pensions. Le gouvernement attend les syndicats dans 2 semaines, à partir du 7 janvier, pour reprendre la concertation sur les retraites. Matignon présente ce soir ce calendrier jusqu'à la présentation du projet de réforme en Conseil des ministres. Elle est prévue le 22 janvier. Ce soir, la RATP annonce qu'elle va déposer plainte. Des manifestants contre cette réforme ont bloqué des métros de la ligne 1 ce matin à Paris, l'une des 2 lignes automatiques qui fonctionnent normalement pendant la grève. Pour demain, 6 lignes de métro fermées dans la capitale. À la SNCF, 2 TGV et Ouigo sur 5 en circulation. Pour toutes les prévisions de trafic pour ce 20e jour de grève, rendez-vous sur franceinfo.fr. Un juge d'instruction mène désormais l'enquête sur l'effondrement du pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn près de Toulouse. C'était le mois dernier. L'édifice se serait effondré à cause d'un camion trop lourd. Le conducteur et une adolescente tués. Une information judiciaire ouverte, notamment pour homicide et blessures involontaires. 3 jours de deuil national décrété en Algérie. Le chef de l'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, mort aujourd'hui à 79 ans. C'est lui qui avait tenu le pouvoir entre la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril et l'élection du nouveau chef de l'État il y a une dizaine de jours.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés, Julien Lenglet.
Les informés avec Roselyne Fèvre, Henri Vernet, Florian Silnicki. On évoque le chef de l'État, Emmanuel Macron. Et juste avant l'info avec Lauriane Delanoë, Henri Vernet, vous nous parliez d'Emmanuel Macron et de ses vœux présidentiels très attendus. Que peut annoncer le président pour calmer le jeu? Florian Silnicki, une idée?
Ah déjà, je suis convaincu qu'il va pas chercher à calmer le jeu, il va chercher à obtenir le soutien encore plus massif, d'abord évidemment de ses troupes, mais aussi essayer de grignoter un peu plus large dans l'opinion publique. Donc il va chercher à justifier le fait que la mobilisation syndicale, elle n'est pas légitime, ou alors miser sur le côté, il cherche à garder un acquis qui est minoritaire, et au fond, il faut faire un effort, et il va chercher à stigmatiser ces syndicalistes qui sont dans la rue, qui sont mobilisés pour préserver leur régime. Il va jouer au fond l'opinion contre les syndicats. Il faut faire attention parce que à jouer l'opinion, parfois on la rate ça assez systématiquement. Ça a raté Emmanuel Macron ces derniers temps, donc il ne devrait pas forcément faire ce pari ici.
Que peut-il annoncer? Pourquoi pas d'annonce avant le 31?
Non,
il y a encore
pas,
les vacances, il y a une réunion.
Je pense qu'il ne fera pas d'annonce parce que on revient là dans l'essence de la Ve République, vraiment. Où on a un président qui fixe les lignes et un premier ministre qui gouverne et qui est le chef de la majorité. Et là, on est typiquement là-dedans. Donc le président de la République, je pense, si j'étais lui, j'expliquerais pourquoi je fais cette réforme, pourquoi en quelque sorte cet état social a besoin de plus de justice et d'équité, puisque c'est ce qu'il nous avait expliqué, de cohérence aussi, d'une cohérence sociale, c'est-à-dire que on a besoin de solidarité et qu'en quelque sorte, c'est ce que nous avait dit un peu Édouard Philippe lors de sa présentation, que c'est en fait, en quelque sorte, on n'est plus sous le mode de 1945, mais sur une justice du 21e siècle pour les femmes, pour les uns et les autres. Moi, je serais lui, je dirais ça, j'expliquerais la philosophie de ce nouvel état social, de cette nouvelle justice.
Emmanuel Macron, il a beau se cacher, entre guillemets, derrière le Premier ministre, c'est quand même lui qui est la cible principale des manifestants dans tous les cortèges, depuis le début, Henri Vernet. Alors, les Gilets jaunes, c'est vrai qu'il était vraiment là où la cible numéro un, et là, c'est vrai qu'il a mis, entre guillemets, le Premier ministre en première ligne, mais ça ne change rien, Henri Vernet. C'est sa personne qui cristallise le mécontentement.
Oui, mais c'est assez logique, parce que la réforme procède de lui, puis parce que, attendez, mais depuis qu'on est sous le quinquennat, de toute façon, il y a un dirigeant en France, c'est le président de la République. Je veux dire que le Premier ministre...
Ah, il y a eu des premiers ministres quand même très bousculés.
Bousculés, oui, mais pour autant, le président était visé. Attendez, on sort d'un quinquennat où le président
n'a même
pas pu se...
C'est vrai qu'Alain Juppé, c'était pas le quinquennat.
Non, oui, mais là, je vous parle du quinquennat précédent, où le président n'a même pas pu se représenter. Oui, je veux dire, tellement il était comptable d'une politique qui n'avait pas plus aux Français, qui les avaient même déçus. Et d'ailleurs, on vient de parler de annonce le 31 décembre ou pas annonce. Un des grands griefs qui ont été faits à François Hollande, c'est de ne jamais avoir annoncé le pacte pour la croissance, enfin toutes les réformes qu'il a faites pour l'entreprise, et qu'il avait justement annoncé un soir de vœux, c'était les vœux du 31 décembre 2013, avec un changement radical de sa politique. Malheureusement pour lui, c'était un an et demi après son élection, donc évidemment, ça faisait un petit peu de désordre. Donc tout ça pour dire que le fait que la colère converge explicitement vers Emmanuel Macron, oui, bien sûr, mais c'est sa réforme. Qu'est-ce qu'il est là-dedans, Édouard Philippe? Il en est l'exécuteur. Pourquoi est-ce que je vous parlais tout à l'heure de l'âge pivot?
Avec l'impression d'une certaine dissonance.
Justement, là où il y a peut-être une feuille de papier à cigarette entre les deux, c'est justement sur les mesures, comment dit-on, systémiques, c'est-à-dire notamment ces mesures sur l'âge pivot, etc. Là, qui tiennent plus à cœur d'Édouard Philippe et disons du volet droite de cet exécutif, les Le Maire, les Darmanin, Édouard Philippe et compagnie, mais avec un Emmanuel Macron qui est le concept même, la philosophie de la réforme, c'est sa réforme, c'est le système changé de système universel à points, et donc là-dessus il va en effet faire de la pédagogie, ça n'empêche pas que sur le reste il pourrait y avoir marge de manœuvre.
C'est comme un truc marrant, ouais. Et si un observateur aguerri comme Henri, il se souvient plus du mot, vous voyez, pour désigner une partie de la réforme, vous imaginez ce que le français lambda, qui n'a pas le temps de passer ses journées à suivre l'actualité, il comprend de cette réforme qui est quand même hyper techno, surtout qui ressemble vraiment à un fourzitou administratif. C'est le truc, on a essayé de faire d'une pierre politique plein de coups de communication, tout cela c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je voulais mettre un petit carton rouge en termes de communication à ce gouvernement sur un point. Ils ont mis...
rouge.
Ou allez orange, parce que je pense qu'on peut l'améliorer. Ils ont mis en ligne un site internet qui s'appelle Suis-je concerné.
je vous invite à aller le voir parce que ça ressemble à une espèce de diagnostic médical. On dirait qu'on a une maladie alors qu'il s'agit juste d'expliquer aux Français s'ils entrent ou non dans le périmètre de la réforme qui est proposée. C'était censé convaincre les Français qu'ils avaient intérêt, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils entraient, à ce que cette réforme voit le jour. Finalement, c'est assez dissuasif et c'est dommage parce qu'on rate, on passe à côté de quelque chose.
Roselyne Fèvre, vous vouliez dire quelque chose et je vous ai un petit peu interrompu.
Oui, mais je ne me rappelle plus du tout. Non, oui, si, je voulais dire à Henri que sur Darmanin et le maire, il y a quelques jours, ils étaient plus mezzo voce que finalement Édouard Philippe. Il disait, Emmanuel Macron, non, il faut quand même un peu lâcher sur l'âge pivot parce que ça commence à sentir le sapin, c'est normal, c'est Noël. Et Édouard Philippe, lui, a tenu bon. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'inconscient juppéiste, il y a « je ne lâcherai pas ».
Il est là cet inconscient, incontestablement, on le voit dans la posture, même dans ses discours,
il s'en défend.
Oui, mais dans l'orthodoxie budgétaire, sur le volet, purement, j'allais dire, technique, mécanique, c'est pas…
Quoi, il joue sa crédibilité.
Et les deux autres étaient prêts à lâcher. Hein.
Oui, en quelque sorte, oui, mais pas que la sienne, sa crédibilité de premier ministre, encore une fois, surtout la crédibilité réformiste d'un gouvernement, d'un pouvoir
qui en a fait sa marque de fabrique. Emmanuel Macron là-dessus, il n'y a pas.
C'est vraiment
un couple exécutif. S'il a des difficultés, en tout cas, c'est très feutré. Et
politiquement, ils sont en phase. C'est juste que sur les nuances, encore une fois, je pense que sur certains. Je crois que sur l'âge pivot, elles sont assez claires.
On sait quand même récemment.
Assez claires, non, mais en
Florian, c'est marqué. Des fuites ont été publiées par les médias. On sait que ce couple, il a quand même un peu tangué. On sait par exemple que le directeur de cabinet du Premier ministre a accusé le conseiller spécial du président de la République.
Donc, c'est la ligne d'Edouard Philippe qui l'a. Donc, c'est la ligne d'Edouard Philippe qui l'a emporté. Donc.
Jusqu'à quand, incontestablement. Toute la question, c'est... Roselyne.
J'ai rien contre les Évelines.
Jusqu'à quand on peut faire quelque chose comme ça. Non, mais combien de temps cela va durer? C'est vrai que ça s'est vu, en effet, parce que c'était deux lignes qui s'affrontaient. La ligne, encore une fois, très orthodoxe, très classique, droitière, on cite Juppé, mais la droite, oui, la droite fillonesque aussi. Il faut qu'il y ait un saut et un saut. Bah si, sur la retraite, carrément. 64 ans, lui, son rêve, c'était la retraite à 64 ans, parce que les comptes étaient équilibrés.
Son rêve, quand vous y allez, Henri Vernet.
Je ne dis pas que c'était le nôtre. Sur les Français, c'était peut-être le cauchemar des Français.
C'était sa bannière,
mais bien sûr, c'était sa bannière. Je pense que ça lui a fait plus de mal d'ailleurs que ces histoires de costard.
Merci Henri Vernet, Roselyne Fèvre et Florian Siniquet. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie des informés et on va évoquer ce dont on a finalement très peu parlé, c'est le discours d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire avec quelques annonces importantes mais qui sont un peu passées inaperçues. D'abord, 20h50, le rappel de l'info avec Lauriane Delanoë.
En plus des perturbations dans les trains et les métros, va-t-on vers une pénurie de carburant en France? Les grévistes contre la réforme des retraites votent la mise à l'arrêt d'une deuxième raffinerie, celle de Grandpuits en Seine-et-Marne. Le mouvement se durcit d'après la CGT. 20% de pétrole en moins à la pompe dans les prochains jours, prévoit sur France Info un délégué du syndicat Total. Pour ce qui est des trains, demain, au 20e jour de la grève, comptez 2 TGV et Ouigo sur 5, 4 TER sur 10. La concertation entre les syndicats et le gouvernement devrait reprendre le 7 janvier. Plusieurs ministres recevront les organisations. Soirée dans le noir, sans électricité pour 5000 clients d'Enedis. Ce soir, principalement en Nouvelle-Aquitaine. Conséquence du passage de la tempête Fabien, ce week-end, l'aéroport d'Ajaccio, toujours fermé, il est inondé. 5 Saoudiens condamnés à mort pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi l'an dernier. Mais les accusés les plus proches du prince héritier Mohamed Ben Salman disculpés. La justice a été bafouée, estime l'ONG Reporters sans frontières. Ces condamnations à mort, ce serait une manière de faire taire à jamais des témoins du meurtre, affirme sur France Info ce soir le secrétaire général de RSF. Un nouveau patron à la tête de Boeing, l'actuel PDG démissionne. L'avionneur américain veut une nouvelle direction pour restaurer la confiance en pleine crise des 737 MAX.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Julien Lenglet.
La dernière partie des informés avec Roselyne Fèvre, Henri Vernet, Florian Silnicki pour parler d'Emmanuel Macron qui était donc en Côte d'Ivoire pendant 48 heures, rattrapé bien sûr par la grève contre la réforme des retraites. Et du coup, on en a quand même un petit peu oublié son discours. Emmanuel Macron s'est présenté comme le bâtisseur d'une nouvelle ère de relations avec l'Afrique francophone en sonnant notamment le glas du franc CFA. On écoute un extrait du discours du chef de l'État.
Trop souvent aujourd'hui, la France est perçue avec un regard d'hégémonie ou les oripeaux d'un colonialisme qui a été et qui fut une erreur profonde, une faute de la République. Il nous appartient collectivement de bâtir cette nouvelle page, celle de ce partenariat, de cette amitié. On ne peut pas balayer le passé. Donc il faut regarder les fautes, savoir regarder aussi ce que nous avons su faire ensemble et regarder la richesse de nos relations.
Voilà, le chef de l'État, un petit peu de repentance ou pas dans les mots du chef de l'État, Roselyne Fèvre.
Oui, bien sûr, il l'avait, la repentance, il l'avait fait déjà, mais c'était avant qu'il soit élu président de la République en Algérie. Il avait qualifié...
Ça avait fait polémique, hein, d'ailleurs, il était en campagne.
Contre l'humanité. Bon, en tout cas, il suit... Je comprends que ça puisse faire plaisir aux uns et aux autres. Je vois pas trop l'intérêt, en réalité... Bon, pourquoi pas, ça peut faire plaisir à certains parce que c'est vrai que il y a un sentiment anticolonialiste et on paye cher notre passé. On paye cher notre passé en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment avec l'opération Barkhane, il y a un sentiment anti-français qui est très fort, parce que en quelque sorte, on paie le prix de l'impatience. Comme vous le savez, donc les djihadistes ont changé de tactique, donc le succès militaire qu'a eu Serval, c'est-à-dire l'ancêtre de Barkhane, ça a duré un an et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué.
Une sorte
donc
d'enlisement.
La France est une sorte de bouc émissaire. Elle est là aussi à pallier les échecs des armées du G5 Sahel qui est pas très performante excepté peut-être le Tchad allez. Et donc voilà, donc on paye un peu cet état de fait et c'est vraiment un sentiment de bouc émissaire. Il y a une autre chose que je voulais dire, le franc CFA c'est très intéressant.
C'est un symbole. C'est la fin d'un symbole,
oui.
C'est pas rien, non?
Mais alors c'est un demi-départ, attention, hein. C'est une demi-autonomie puisque le franc CFA était géré à Paris, c'était Bercy, hein. Donc ça avait un avantage, c'est que c'était un argent solide dont Bercy aujourd'hui abandonne son vrai rôle. Donc c'est une demi-dépendance, alors ça sera ancré, le fameux écho sera ancré à l'euro, mais les pays africains n'auront pas le droit de dévaluer. Voilà, c'était les vieux restes coloniaux, donc c'est aussi un symbole important.
Henri Vernet.
Oui, puis c'est pas totalement soldé, parce que c'est valable pour la zone ouest, pour l'Afrique de l'Ouest, mais il reste 8 pays qui sont les pays d'Afrique centrale, hein, avec le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, enfin, et quelques autres qui, eux, gardent un franc CFA. Il y avait deux francs CFA.
Bah, ils tirent un peu un trait sur la France-Afrique, quand même, petit peu.
Oui, alors, attendez, franchement, le discours du trait tiré sur la France-Afrique, mais il se trouve que j'ai travaillé à Jeune Afrique, voyez-vous, ouais. Il y a quelques années. J'entendais donc déjà ça, mais il y a, je ne vais pas dire des décennies, je suis quand même pas si âgé, mais il y a déjà vraiment pas mal de temps. Et rappelez-vous, par exemple, il y en avait un qui l'avait payé d'ailleurs. Un ministre avait été carrément écarté par les tenants français de la France-Afrique, les hommes de l'ombre de la France-Afrique. C'était Jean-Marie Bockel qui avait payé des propos un petit peu allant sur la fin de la France-Afrique. Sarkozy avait juré que c'était fini la France-Afrique. Enfin bref, c'est un discours très classique chez les dirigeants français. Et puis on attend de voir. Donc là, en effet, il y a un pas important qui a été franchi avec le franc CFA. La réalité, c'est que oui, il faut que désormais, ça corresponde surtout à une réalité régionale, c'est-à-dire que ce fameux écho... Alors, le franc CFA était déjà indexé sur l'euro, en réalité, depuis l'entrée, tout simplement, dans la France, dans le système euro. Voilà, Paris, et qui même imprimait les billets. Mais, donc, ce qui doit changer pour que cela soit vraiment effectif, il faut qu'il y ait une sorte de réelle communauté économique qui se développe. Elle existe, hein, sur le papier, en Afrique de l'Ouest et également en Afrique centrale, mais elle n'a pas réellement d'activité, elle n'est pas en vigueur. Il faut aussi que s'y intègrent des pays qui n'étaient pas dans la zone franc, c'est-à-dire les pays ex-anglophones, comme le Ghana, par exemple. Voilà, il faut que ça marche. Donc, je veux dire que la décolonisation, elle n'est pas encore faite. Dernier mot, juste que j'ai trouvé étonnant de plus en plus, même s'ils n'ont pas, enfin, je veux dire qu'ils y vont quand même avec d'assez gros sabots. Dernier mot, il a parlé de la faute de la République. Je suis un peu étonné parce que l'œuvre coloniale, ou les méfaits coloniaux, disons les choses comme ils sont, remontent pas à la République, hein, c'est bien avant, France, c'est la monarchie, c'est l'Empire. Alors certes, c'était
c'est
un peu exalté.
Oui,
mais c'est une repentance. Je trouve que son discours, il est un peu rapide finalement. C'est une séquence qui était un peu brouillée, quoi.
C'est, Florian Sénéchi,
mal préparé. C'est
toujours un terrain glissant pour les présidents. Hein.
Oui, c'était là-dessus. Moi, je voulais soulever ce point. Je crois que c'est une erreur stratégique que d'avoir mis la République là-dedans. La République, elle a rien à voir là-dedans. Par ailleurs, c'est une nouvelle illustration, à mon sens, du point de vue de la communication politique, que plus les politiques touchent à la mémoire, plus ils sont sur un terrain glissant qui leur nuit. Par ailleurs, ici, on est revenu à une séquence qu'on croyait oubliée avec François Hollande, sur le repenti permanent et constant. Tout ça au détriment de certains politiques qui pensent qu'ils enracinent ainsi à la fois leur personnage politique dans l'histoire et leur discours. C'est toujours une erreur et un politique n'a jamais intérêt. Laissons la mémoire et l'histoire aux historiens.
Ouh là là, il y a la petite musique qui me dit que c'est bientôt terminé. Alors vite, 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 Henri Vernet, la une du Parisien aujourd'hui en France demain.
Alors écoutez, c'est peut-on encore manger du foie gras?
Ça va changer de sujet.
C'est un vrai débat aujourd'hui avec tous les interdits, les polémiques.
Et la réponse. Et les véganes qui se font entendre largement.
Oui, toutes les.
Avec le faux gras.
La réponse, c'est il faut lire Le Parisien, l'acheter, le lire pour l'avoir.
Merci.
Avant le réveillon.
Merci Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint du Parisien aujourd'hui en France. Merci Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24. Et merci Florian Sinicki, fondateur de l'agence lafrench.com. Vous étiez nos informés du soir sur France Info. À demain.